Shabbat Shalom, Mevorach. Alors, au sujet de cette paracha, de la paracha Vaikra, il y a une sicha du Rabbi dans laquelle le Rabbi explique que quand la voix de Dieu se révélait à l'intérieur du tabernacle, dans la tente d'assignation, c'était exactement l'intensité de la voix qui s'est révélée à tout le peuple d'Israël au moment du don de la Torah sur le Har Sinaï. Donc c'était un miracle, en fait, qui se produisait parce que la voix de Dieu, Moshe l'entendait à l'intérieur de la tente, mais à l'extérieur, c'était le silence le plus total. Donc, ce miracle-là, le Rabbi tire un enseignement qui est vraiment digne de l'esprit de Chabad, puisque le Rabbi nous explique que quand on entend de manière claire la voix de Dieu, alors, sans difficulté aucune, on va se soumettre à cette voix et on va obéir à Dieu. Mais tout l'intérêt, justement, c'est d'écouter la voix de Dieu, même à l'extérieur de la tente. C'est-à-dire, même dans des situations où, justement, la voix de Dieu est imperceptible. C'est-à-dire, dans l'exil dans lequel nous vivons, en fait, on doit chercher soi-même notre Père qui est dans les cieux. Comme le Rabbi l'a expliqué, justement, il a dit que le plus grave, ce n'est pas de ne pas trouver son Père, le plus grave, c'est de s'arrêter de le chercher. Donc, si la voix de Dieu se révèle à l'intérieur de la tente, c'est une chose. Ça signifie que, bon, dans ces situations où vraiment c'est clair que dans notre esprit, qu'on doit obéir au commandement divin, c'est très bien. Mais tout l'intérêt, c'est de justement d'obéir au commandement divin à l'extérieur de la tente, c'est-à-dire dans le désert de l'exil. Et ça parle tout particulièrement aux personnes qui sont encore qui ne perçoivent pas la parole de Dieu. Et précisément ces personnes-là, c'est la mission du chaliar que de les atteindre. Alors, nous sommes à la veille de Pourim, et c'est bien de se rappeler de cet enseignement que le Rabbi a délivré le 2 mars 1961, c'est-à-dire pendant la fête de Pourim en 5721. Le Rabbi a déclaré ainsi, il a dit « Écoute, il y a une terre désolée, qui est spirituellement sous-développé, il y a des juifs là-bas qui ne savent même pas qu'il leur manque quelque chose. Va chez le juif qui est dans un tel besoin, soit là-bas un jour, une semaine, un mois, une année, 10 ans, Dieu a assez d'années à partager, autant d'années que le travail demande, il te donnera. » En fait, si on reprend cet exemple de la tente d'assignation, que la voix de Dieu se révèle à l'intérieur de la tente et non pas à l'extérieur, en fait, à l'extérieur, c'est cette terre-là que le Rabbi décrit comme une terre désolée, spirituellement sous-développée. Et c'est précisément sur cette terre désolée que se trouve un juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'entend pas la voix de Dieu. Et c'est la mission du chaliar, justement, de lui faire entendre cette voix, de lui donner le goût du Shabbat, de lui donner le goût de l'étude de la Torah, de le sortir de l'exil. L'exil, d'après les enseignements du Rabbi, c'est le pire exil, c'est quand on n'a pas conscience qu'on se trouve en exil, justement. Et donc, ce juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose, c'est ça le véritable exil. C'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de ce que toute la Torah peut lui apporter. Et c'est précisément la mission du chaliar, justement, de lui faire prendre conscience, tout d'abord, qu'il est en exil, qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque l'essentiel, qu'il lui manque la chassidoute, qui lui manque la Torah. Chaque chaliar du Rabbi, chaque chassid du Rabbi, doit d'une certaine façon ressembler à Moshe Rabbeinu. Et la qualité de Moshe Rabbeinu, c'est justement celle d'enseigner la Torah, de la mettre à la portée de chaque juif. Alors on raconte que le Tzemar Tzedek, qui était alors un jeune enfant, il est rentré dans le bureau de son grand-père, l'Admor HaZaken, et il a demandé à l'Admor HaZaken, parce qu'il venait d'étudier justement un enseignement sur la paracha Vaikra, et dans la paracha Vaikra, la lettre Aleph, elle est écrite en tout petit. Et il a demandé pour quelle raison, justement, cette lettre-là était écrite, non pas comme les autres lettres, qui sont de taille moyenne, mais toute petite lettre. Et l'Admor HaZaken lui a répondu qu'il y a 3 sortes de lettres dans la Torah. Il y a des grandes lettres, il y a des lettres moyennes, et il y a des petites lettres. Donc ces 3 dimensions, elles possèdent un contenu profond. Alors, la grande lettre, quand le Aleph est grand, alors il a cité Divrei Hayamim, il a expliqué que là-bas il est question d'Adam Harishon, et que la lettre Aleph est écrite en grande taille, pour expliquer que du fait que Adam Harishon avait conscience que qu'il a été formé par les mains de Dieu, ça a fait naître en lui un sentiment proche de l'orgueil. Et c'est la raison pour laquelle la lettre, elle est écrite en grand. La lettre Aleph est écrite en grand. Et ce sentiment d'orgueil, l'Admor HaZaken explique au Tzemar Tzedek que c'est ce qui a amené ensuite Adam Harishon à fauter. Ensuite, on voit qu'il y a des lettres qui sont écrites toutes petites, comme le Aleph de Vaïkra. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que la petitesse de cette lettre, elle évoque le fait que Moshe Rabbeinu, il était d'une profonde humilité. C'est écrit dans la Torah que c'était l'homme le plus humble. Donc, cette capacité que Moshe possédait, c'est justement grâce à cette qualité-là que Dieu l'a choisi. C'est par son humilité qu'il est devenu le berger d'Israël. Et ensuite viennent les lettres moyennes. Et les lettres moyennes, selon l'enseignement de l'Admor HaZaken, ça représente le Benoni, ça représente l'homme moyen. Et en fait, le Benoni, c'est un compromis. C'est-à-dire que d'un côté, pour reprendre une explication du Rabbi, un juif doit avoir conscience de sa petitesse, donc c'est allusionné par une petite lettre. Mais de l'autre côté, il doit avoir conscience de la possibilité de s'élever. Donc ça fait référence aux grandes lettres. Donc le Benoni, c'est l'intermédiaire entre les deux, c'est la lettre moyenne. Donc c'est justement cette capacité d'unir deux choses qui s'opposent. D'un côté, ressentir de l'humilité, une profonde humilité, mais d'un autre côté, être ambitieux, être audacieux, être vouloir grandir, vouloir s'élever. Il y a aussi deux enseignements sur la lettre Aleph, qu'il est bien de rappeler ici. Deux enseignements. Le premier, c'est l'enseignement de Rabbi Yom Tov Lipman, qui a expliqué que la lettre Aleph, elle est composée d'un axe qui est écrit en diagonale, comme un vav, et deux yud qui s'accrochent à cet axe, un vers le bas et un vers le haut. Et Rabbi Yom Tov Lipman a expliqué que le vav de la lettre Aleph, il représente la voix de Dieu. Et les deux yudim qui sont accrochés de chaque côté de ce vav, ça représente les deux chérubins. Donc la lettre Aleph, c'est une allusion à la voix de Dieu qui passait entre les deux chérubins qui sont posés sur l'arche de l'Alliance, qui se trouvaient dans le Ohel, et Moshe, il entendait la voix de Dieu qui passait par ces deux chérubins. Donc cette allusion à la lettre Aleph, c'est l'allusion justement à la voix de Dieu qui se dévoile à Moshe. Le second enseignement qu'on peut retenir sur la lettre Aleph, c'est le fait que le Rabbi Rehatz a raconté que quand il était un jeune enfant, son Mélamed lui a expliqué que la lettre Aleph, donc la première lettre qu'un enfant apprend, c'est le porteur d'eau. C'est une allusion à un porteur d'eau. Pourquoi ? Parce que un porteur d'eau, il porte sur ses épaules un bâton de bois, et donc ça c'est le vav de la lettre Aleph, et les deux yud qui sont accrochés de chaque côté du bâton, ça représente les deux seaux d'eau qui sont supportés donc par ce bâton que le porteur d'eau porte sur ses épaules. Donc l'exemple du porteur d'eau pour désigner la lettre Aleph, pour faire allusion à la lettre Aleph, elle montre toute l'humilité, encore une fois, d'un porteur d'eau qui porte, qui amène à chaque juif de l'eau, et il y a une allusion directe au fait que les deux seaux d'eau, ça ressemble à un seau correspond à la partie profonde de la Torah, et l'autre seau correspond à la partie révélée de la Torah. Enfin, on peut ajouter à toutes ces explications une explication du Rav Yoel Kahn qui explique dans le Sefer HaRachim que la lettre Aleph, elle représente l'essence de l'âme de toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Elle représente et désigne l'essence. Le Aleph, c'est la première lettre du mot Anochi, et Anochi, comme on le sait, c'est une allusion à l'essence divine. Alors c'est précisément cela, le sujet de Purim, et indirectement de cette paracha Vaïkra, puisqu'il est aussi question dans le Dvar Malchut du Rabbi sur la paracha Vaïkra, de Narshon ben Aminadav. Donc, pour commencer par en parlant de Purim, de dire que la fête de Purim, il y a de nombreux discours chassidiques du Rabbi qui expliquent le contenu profond vraiment de cette fête-là. Et comme par exemple, quand le Rabbi explique quand le sommeil d'Achashverosh a été dérangé, qu'il a eu comme une insomnie, il n'arrivait pas à dormir, ce moment-là, il est expliqué de manière profonde par le fait que le sommeil d'Achashverosh, ça représente l'exil dans lequel le peuple juif se trouve. Et le roi des rois, c'est vraiment le Hachem, qui n'arrive pas à dormir, c'est pour quelle raison? C'est qu'il est réveillé par le peuple juif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dormir parce qu'il se passe quelque chose sur terre, parce que les juifs, ils agissent d'une telle façon qu'ils vont déranger le sommeil du roi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le rabbi nous explique que quand on parle, quand on récite ce passage de la Megillah, on doit élever la voix. On doit élever la voix parce que le rabbi nous dit que c'est le Ikar Hanes, c'est l'essentiel du miracle de Pourim, c'est précisément l'attitude du peuple juif. C'est-à-dire à un moment où vraiment il y avait un décret qui pesait sur le peuple juif, que Dieu nous en préserve, qu'il voulait exterminer carrément tout le peuple d'Israël, c'est malgré tout, le peuple juif s'est comporté, comme c'est expliqué dans le Mahamar Ve'atat et Tzavé, ils ont fait ce qu'ils auraient pu faire au moment de Matan Torah et qu'ils n'ont pas fait, parce que c'est justement au moment de Pourim qu'ils ont dévoilé la force de Messirut Nefesh. C'est-à-dire que même en étant en danger, ils étaient prêts à sacrifier leur vie, à faire don total d'eux-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est précisément cela qui a fait que Dieu s'est réveillé de son sommeil. C'est-à-dire que on a quitté cette situation d'exil, de nuit, puisque le sommeil, ça ressemble, c'est une allusion à l'exil. Donc le fait de dormir, c'est le fait de vivre en exil. Le fait de se réveiller, c'est d'agir justement pour sortir de l'exil. Comme on l'a dit, comme un chaliar qui va faire prendre conscience à une personne qui lui manque quelque chose, c'est quoi en fait? C'est de faire prendre conscience à cette personne qu'elle est en exil et qu'il doit se réveiller. Alors cette attitude des juifs, donc de Messirut Nefesh, c'est celle qui a provoqué le réveil, entre guillemets, d'Hachem. Dans une sicha du Likute Sichot, Chelek Aleph, à la page 134 jusqu'à la page 138, le rabbi va nous expliquer que la mer s'ouvrit par le mérite d'un seul juif du nom de Nachshon ben Amminadav. En fait, ce juif-là, il savait au fond de lui-même que Dieu a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte afin de les conduire au pied du mont Sinaï et de leur donner la Torah. Donc c'est pour ça que quand il s'est retrouvé avec tout le peuple juif devant la mer, il n'a pas été perturbé, ça ne l'a pas déconcentré. Et c'est pour cela qu'il est entré dans la mer vraiment jusqu'à ce que l'eau même dépasse. Elle arrive au niveau de ses yeux, et quand elle est arrivée au niveau de ses yeux, la mer s'est ouverte devant lui. Ce qui est intéressant, c'est que le rabbi rapporte dans le Dvar Malchut un midrash selon lequel Nachshon, ça vient de Narchol, et Narchol, ça désigne les grandes vagues de la mer. Et Nachshon ben Amminadav, justement, c'est celui qui n'a pas eu peur d'affronter ces vagues, parce qu'il est entré en premier dans la mer et qu'il a marché jusqu'à ce que la mer s'est ouverte devant lui. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la volonté de Nachshon ben Amminadav, cette volonté qui est liée au fait qu'il savait que Dieu les a fait sortir d'Égypte pour recevoir la Torah, donc cette volonté qu'il animait au plus profond de lui-même. Il voulait recevoir la Torah, et c'est avec ce sentiment qu'il est entré dans la mer. Et donc, on doit voir ici un principe qui est essentiel, un concept divin qui est essentiel dans notre service divin, justement. C'est cette volonté, la volonté de l'âme, la volonté de l'âme du juif de retourner à sa source. Vraiment, et cette volonté, elle est comparée, justement, le Rabbi Rachab, il dit que c'est une volonté qui est inébranlable. Dans son ouvrage La Source, au 27e discours, le Rabbi Rachab, il donne l'explication du verset « car c'est un peuple au cou raide ». En fait, le Rabbi Rachab, il nous dit que ce n'est pas péjoratif. Généralement, quand on entend ce verset, on pense que le peuple juif, c'est un peuple qui est têtu. Mais le Rabbi Rachab, il vient nous donner un autre sens. Il vient nous dire qu'au contraire, c'est la qualité des enfants d'Israël. C'est leur vertu. C'est la détermination inébranlable qu'ils possèdent à se détourner du mal et faire le bien sans aucune argumentation rationnelle ni discussion. L'obstiné se comporte d'une façon irrationnelle. Sa volonté est bien plus forte que celle de l'homme qui s'appuie sur la raison. L'intellect affaiblit le désir et lui impose des limites, tandis que la volonté, l'aspiration résolue que l'intellect ne gouverne pas, sont sans bornes. C'est pourquoi la détermination de l'obstiné est solide et ferme. Donc on voit ici que la volonté d'un juif, elle dépasse la raison et l'intellect. C'est précisément quand un juif, il agit au-delà de la raison, au-delà de l'intellect, qui réveille cette volonté qui procède de l'essence de son âme, cette volonté de s'unir à Dieu, cette volonté de dévoiler les forces les plus profondes, et notamment le plaisir. Le plaisir d'un juif d'accomplir les commandements divins, il provient de l'union de son âme avec Dieu. Du fait que son âme est enracinée dans l'essence divine, à l'exemple d'un fils qui est dans les bras de son père, qui va ressentir l'amour de son père, l'essence de l'âme juive, elle ressent l'amour que Dieu éprouve pour cette âme. Et ce plaisir qui est vraiment, qui procède de l'essence de l'âme juive, ce plaisir-là, c'est la mission de chaque juif de le dévoiler quand il accomplit les commandements divins. C'est pour cela que on a mis dans ce cours-là, dans cet audio, une vidéo que vous pouvez regarder vers la 22e minute de cette vidéo. On explique ce sujet-là, le sujet du plaisir qu'un juif peut ressentir en accomplissant sa mission sur terre. Mais Zrat Hashem, que ce plaisir il nous accompagne, parce que c'est celui qui réveillera le désir de Dieu de résider en ce monde avec la présence du Machar et la présence du troisième temple, Zrat Hashem, le Beit HaMikdash. Shabbat Shalom, Umevorach.